Bienvenue à vous, vous êtes à l'écoute d'Europe 1, il est 18h.
Je maintiens sur la base des informations dont je dispose le délai d'injection entre deux injections Pfizer à 21 ou 28 jours, c'est-à-dire 3 à 4 semaines.
Olivier Véran refuse donc d'allonger le délai entre la première et la deuxième dose de vaccin. Victor Delande nous expliquera pourquoi le ministre de la Santé choisit la prudence.
Il faut davantage consulter le Parlement et tout tenter pour éviter un reconfinement. Plusieurs voix s'élèvent dans la classe politique. Elles demandent au gouvernement d'arrêter les discours contradictoires.
Sur les réseaux sociaux, ce sont des appels à la désobéissance civile qui fleurissent. Hashtag « Je ne me reconfinerai pas ». Le médecin généraliste à l'origine de ce mot-clé reconnaît lui-même que les choses lui ont un peu échappé.
Dans ce journal également, on sera aux Pays-Bas où de petits groupes de réfractaires au couvre-feu sont à l'origine des émeutes de ces derniers jours.
L'Alsace salue la décision du géant chinois Huawei qui a choisi cette région pour implanter sa toute première usine hors de France, hors de Chine.
Et puis ravalement de façade de grande ampleur, intérieure et extérieure pour le centre Pompidou à Paris. Beaubourg va donc fermer pour un peu plus de 3 ans à partir de 2023.
La bourse de Paris a terminé en hausse de 0,93% à 5523 points.
Attention, verglas demain. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cette nuit et tôt demain matin, nous avons un épisode de verglas qui risque de rendre les conditions de circulation très difficiles des Ardennes jusqu'au plateau de Langres. 3 départements sont placés en vigilance orange et je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ne pas remettre à plus tard la deuxième dose de vaccin de Pfizer-BioNTech, c'est donc la philosophie du gouvernement qui ne retient pas finalement la proposition de la Haute Autorité de Santé d'allonger le délai entre les deux injections.
Bonsoir Victor Delande. Le ministre de la Santé explique qu'il fait le choix de la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de certitude sur l'immunité conférée par la première injection. Les remontées de terrain, notamment en Israël, où la population a été massivement vaccinée, ne sont pas suffisamment bonnes. Les personnes de plus de 60 ans, notamment, qui ont reçu la première dose du vaccin Pfizer, n'avaient pas assez d'anticorps neutralisants. Ils n'arrivent qu'en nombre suffisant à partir du rappel vaccinal. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé aussi les autres incertitudes qui planent pour retarder justement la deuxième dose, 6 semaines après la première.
Un impact mineur sur le rythme de la vaccination en France, en tout cas à 2 ou 3 mois. L'absence d'études cliniques sur une administration à 42 jours du rappel de vaccination, la faiblesse des connaissances scientifiques sur la protection des personnes entre 2 injections et l'absence de données permettant de croire à la protection des personnes entre 2 doses face à la menace des variants.
En l'absence de consensus scientifique, Olivier Véran joue donc la sécurité. Il rappelle au passage qu'à l'exception de l'Angleterre et du Danemark, tous les autres pays européens ont conservé la même stratégie, c'est-à-dire un laps de temps de 3 à 4 semaines maximum entre les 2 injections du vaccin Pfizer.
Merci Victor Delande pour ces précisions.
Quant à la question d'un éventuel reconfinement, nous vous le disions dès hier soir, Emmanuel Macron veut se laisser du temps avant de trancher sur la question et notamment attendre de voir les effets du couvre-feu.
Le président ne prendra donc pas la parole à l'issue du Conseil de défense, on l'évoquait hier. On avait, c'est vrai, dans un premier temps, parlé d'annonce dès jeudi. Cela ne devrait pas être le cas.
Alors que le président du Conseil scientifique dit aujourd'hui qu'on est toujours dans l'urgence, mais qu'on n'est pas à 3 jours près.
Oui, c'est dans ce contexte que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander au gouvernement de ne pas reconfiner. Le président du Sénat, notamment, se dit inquiet pour les Français. Gérard Larcher estime que tout doit être fait et tenté avec des mesures intermédiaires.
Et il demande que le Parlement soit davantage associé aux décisions qui seront prises. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs, à faire cette demande et à redouter l'effet dévastateur d'un troisième confinement. Écoutez le patron des députés LR, Damien Abad, à l'Assemblée nationale cet après-midi.
Le confinement n'est pas inéluctable, on peut encore l'éviter. Il faut pour cela avoir une vraie stratégie sur le tracé testé isolé qui est très important et il faudrait accélérer la politique de vaccination. Donc à ce stade, je pense que si on peut éviter le confinement, ça serait une bonne chose. Ce qui me gêne, ce n'est pas l'hésitation du président de la République, c'est les discours totalement contradictoires que l'on entend des mêmes personnes parfois en 24 heures d'intervalle. Ça perturbe les Français, ça crée de la confusion, ça crée un climat très anxiogène. Je crois qu'il est essentiel que le Parlement soit associé. Mais vous savez, même s'il n'y a pas de décision de reconfinement, il nous faudrait un débat régulier, hebdomadaire, ici au Parlement, pour pouvoir discuter de ces questions sanitaires. On a un moment de débat pour échanger, pour suivre. On entend tout sur les vaccins, sur AstraZeneca, sur les difficultés que l'on a. Donc au-delà de la question du reconfinement, c'est très important que le Parlement soit associé.
Damien Abad, le patron des députés LR au micro européen de Claudia Bertram.
Oui, il n'y a pas que la classe politique d'ailleurs qui s'émeut de cet éventuel nouveau confinement. Certains d'ailleurs ont d'ores et déjà prévu de faire de la résistance.
Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ce hashtag « Je ne me reconfinerai pas ». Un mot-clé qui est très vite devenu viral. Son initiateur est un médecin généraliste de la région parisienne, Pierre Herbulot.
Oui, Fabien Queudeville, un médecin plutôt discret, loin d'être habitué des plateaux de télévision, des studios de radio et surtout des polémiques. En voyant monter la rumeur d'une nouvelle mise sous cloche, ce généraliste de Chilly-Mazarin dans l'Essonne rédige une tribune sur Internet. Il y dénonce les effets néfastes entraînés selon lui par les deux premiers confinements.
On sent dans les patients que l'on reçoit une extrême souffrance. Moi, je vois des gens qui s'alcoolisent, je vois des gens qui dorment mal, je vois des enfants stressés. Je n'ai jamais prescrit autant d'antidépresseurs de ma carrière. C'est permanent, c'est toutes les semaines.
Ce qui n'était au départ qu'un appel à la réflexion échappe complètement aux médecins. En quelques jours, son hashtag apparaît plus de 50 000 fois sur Twitter, largement repris par les complotistes. Ils appellent dans leur message à la désobéissance civile et à la destitution d'Emmanuel Macron.
Je pense qu'on est vraiment tous fatigués là.
Dans la rue, en revanche, les réactions sont beaucoup plus contrastées.
Pendant le premier confinement, j'espérais que ça s'arrête après, le deuxième aussi. Et là, chaque fois, ça repart en boucle.
C'est sûr que les gens commencent un peu à se lasser. Je vois, ne serait-ce que dans mon entourage, je prends déjà un peu certaines libertés.
Ras-le-bol, fatigue, impression de ne pas voir le bout du tunnel. La perspective de nouvelles restrictions n'enchante personne. Mais on est loin des appels à la révolution réclamés par Internet.
Reportage signé Pierre Herbulot.
Oui, et si les Français s'expriment sur les réseaux sociaux, chez nos voisins hollandais, certains choisissent la manière forte. Ils descendent dans la rue pour dire non à l'instauration d'un couvre-feu.
Vous savez que des émeutes ont eu lieu dans tout le pays ces trois derniers jours. Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Eindhoven et Rotterdam également, où vous vous trouvez. Isabelle Horry, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1. Isabelle, aux Pays-Bas, il est interdit de sortir de chez soi entre 21h et 4h30. Ça n'est donc pas très contraignant. Pourtant, c'est ça qui a déclenché ces émeutes.
En fait, tout a commencé avec un rassemblement de quelques centaines de personnes dimanche à Amsterdam et l'appel d'un mouvement d'ultra-droite à se réunir à Eindhoven. Dans les deux cas, la situation a dégénéré et depuis, à la nuit tombée, des affrontements entre la police et des bandes de jeunes, des pillages aussi dans plusieurs villes. C'était le cas hier soir à Rotterdam, dans le quartier d'Abraham.
Ce sont deux groupes différents. D'un côté, les gens qui en ont assez, de l'autre, ceux qui veulent juste casser. Aux Pays-Bas, on veut toujours dialoguer, mais là, il faudrait prendre des mesures. Peut-être qu'il faut envoyer l'armée. La police semble un peu débordée face à cela.
C'est vrai que les violences urbaines sont rares aux Pays-Bas. La population et la classe politique semblent sidérées par ce qui se passe. Le maire de Rotterdam a lancé un appel vidéo aux casseurs cet après-midi.
Vous vous sentez bien d'avoir réduit la ville en miettes ? D'avoir porté préjudice au petit commerce de votre propre ville ? On se sent comment quand on se réveille avec un sac rempli d'objets volés à côté de soi ?
Malgré la crainte d'une nouvelle nuit d'émeute, le gouvernement n'a pas l'intention de renoncer à son couvre-feu, le premier depuis 1945. Il est en place pour deux semaines. Nous n'allons pas capituler devant quelques idiots, a lancé aujourd'hui le ministre des Finances.
Isabelle Horry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rotterdam.
Oui, et on reviendra d'ailleurs sur ces violences, Isabelle, avec notre spécialiste des questions internationales, Didier François, bien sûr, dans le journal de 19h. En bref, en France, la mobilisation du personnel de l'éducation nationale.
Grève et manifestations un peu partout en France pour réclamer davantage de moyens et pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. On a appris aujourd'hui que le frère jumeau de Camille Kouchner avait porté plainte pour la première fois contre son beau-père, Olivier Duhamel. Dans son livre Familia Grande, sa sœur racontait les agressions sexuelles dont il avait fait l'objet enfant de la part du politologue.
L'affaire à présent de l'agression ultra-violente du jeune Yuri à Paris dans le 15e arrondissement. La République ne peut pas toujours faire le travail que doivent faire les parents, dit aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Il dénonce de nouveau des faits insoutenables et assure que le phénomène de bande est pris très au sérieux. L'enquête bien sûr se poursuit.
Europe 1, Julien Bugier.
18h09, vous restez avec nous dans quelques secondes. Cette bonne nouvelle pour les Alsaciens, le géant chinois des téléphones portables Huawei s'installe en Alsace. C'est sa première usine hors de Chine.
Puis 3 ans de fermeture pour le centre Pompidou à Paris.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal est donc pour la première fois, une entreprise chinoise va ouvrir une usine hors de Chine et ce sera en France.
Eh oui, Huawei, le géant des télécoms, a choisi l'Alsace. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante d'Europe 1. Huawei a donc dévoilé aujourd'hui les détails de l'implantation de cette usine qui sera située à Brumath, c'est tout près de Strasbourg et c'est une très bonne nouvelle pour la région.
Oui, le président de la région Grand Est s'est félicité de l'implantation de cette usine à Brumath. C'est un projet à 200 millions d'euros et dans le contexte actuel, un signal très fort, estime Jean Rotner.
Vous le savez, nous avons été très sévèrement touchés par l'épidémie qui nous concerne toujours. Nous avions besoin aussi de renouer cette confiance, d'adresser des signes à nos chefs d'entreprise en disant plus que jamais que nous sommes toutes et tous mobilisés.
À terme, 500 emplois vont être créés. Au moins 80% des salariés seront français, promet Huawei, et la plupart viendront de la région. L'Alsace présente aussi de nombreux atouts pour le groupe chinois, assure Jacques Biot, le président du conseil d'administration en France.
D'abord parce qu'elle est magnifiquement placée au cœur de l'Europe, qu'elle dispose d'un tissu humain, social, industriel, extraordinairement riche.
Et quand on lui parle des craintes d'espionnage industriel de la part de Huawei, il balaye vite la question.
Le site a été choisi sur proposition des pouvoirs publics parmi 50 autres sites.
Les travaux de construction de cette usine devraient démarrer l'année prochaine pour une mise en production courant 2023.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans l'Est. Une dernière minute à propos de l'affaire Harvey Weinstein qui avait donné lieu au hashtag MeToo en 2017. Eh bien, on apprend qu'une juge du Delaware valide aujourd'hui un accord d'indemnisation pour 37 des 45 plaignantes. Pour ces 37 plaignantes, donc, la procédure judiciaire est donc stoppée.
C'est une info à présent qui a fait bondir les amateurs d'art moderne et d'art tout court d'ailleurs. Eux qui sont privés de musées depuis des mois. Le centre Pompidou à Paris va être fermé pendant un peu plus de 3 ans. Pour travaux.
Et oui, car le bâtiment conçu en 1977 et sa façade unique faite de ces gros tuyaux que vous connaissez par cœur, eh bien, ce bâtiment doit subir un lifting, Diane Chenouda, sacré lifting même.
Hein. Ah oui, c'est la première fois que le centre Pompidou doit subir de si gros travaux. La rénovation de sa célèbre chenille est toujours en cours, mais il y a urgence à désamianter le bâtiment, remettre en état les tuyaux de couleur qui sont très abîmés, moderniser les ascenseurs, le système anti-incendie, améliorer l'accès aux handicapés et en faire un bâtiment plus écolo, plus économe en énergie. Ce sera donc 3 ans de fermeture pour le centre Pompidou. Son président Serge Lasvigne explique pourquoi.
Initialement, on s'était dit qu'on pourrait peut-être faire ces travaux en restant ouvert. On a fait faire des études et les études ont démontré que ça allait prendre une éternité, 7 ans au moins. Alors que si on ferme en 3 ans, les travaux sont terminés.
Le centre sera fermé, mais la bibliothèque sera hébergée ailleurs dans Paris, les autres activités également.
Nous allons prioritairement nous efforcer de travailler avec d'autres musées, des théâtres. Il y a beaucoup de ressources à Paris. Et puis, dans la mesure du possible, nous verrons si nécessaire, nous essaierons de nous doter d'une adresse parisienne.
Peut-être donc un lieu bis à Paris. En attendant, le centre Pompidou organisera des expositions avec le musée d'Orsay ou le Quai Branly. Des expos hors les murs également partout en France, à Rouen, Toulon, Clermont-Ferrand ou Nice.
Et vous suivrez ça pour nous, évidemment.
Absolument.
Merci, Diane Chenouda.
Centre Pompidou, 1977, 31 janvier, la première ouverture
absolument,
réalisée par l'architecte Renzo Piano.
Oui.
Évidemment, c'est
c'était
important
un événement.
De le rappeler. Merci
absolument.
Diane, merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et à 19h pour le journal.